Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ravi de vous retrouver jusqu'à 19h30 temps universel sur VOA Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, un grand merci d'être une nouvelle fois fidèle au rendez-vous. Vous êtes des millions à nous suivre chaque semaine collés à vos pouces pour Sporama. Surtout, ne changez rien. Ce soir, le casting reste le même avec moi dans ce studio, Lawal Dinkosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
De Columbus, dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis à Kinshasa, nous avons Valdo Simon Yabayamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
Le menu de ce soir, il est chargé avec les qualifiés pour la phase de poule de la Coupe CAF après les barrages et puis Mondial féminin de handball en Espagne. Les sélections africaines mal engagées. Sporama, c'est parti. On prend d'abord la direction de l'Europe pour parler de la sixième et dernière journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. 5 tickets restent à prendre pour les huitièmes de finale dans la poule B. Ça va se jouer entre le FC Porto, l'Atlético Madrid qui s'affronte d'ailleurs, et le Milan, c'est qui reçoit Liverpool déjà qualifié. Valdo, avantage tout de même pour les Milanais qui joueront à domicile contre les Reds, déjà qualifiés et assurés de finir en tête.
Élisée, Milan-Liverpool nous rappelle bien des souvenirs. Notamment les deux finales de la Ligue des Champions avec une victoire à chacun. Les Milan d'aujourd'hui est loin de faire face à ces Liverpool qui a une force d'attaque qui lui assure une belle position tant en Première Ligue que sur la scène européenne. Peut-être que le fait d'avoir déjà la garantie du prochain tour pourrait être un confort moral qui pourrait faire que certains cadres soient aménagés en Ligue des Champions quand on sait qu'en Angleterre, décembre, c'est très décisif avec le Boxing Day et déjà en championnat, les week-ends n'a pas été réluisant pour les Reds qui se sont imposés en 1-0 grâce à Origi, une situation qui pourrait bien profiter au Milan AC à condition que la bande Zlatan reste sur la bande dynamique du week-end en championnat, victorieux 2-0 des Salernitana, tout en sachant que cette deuxième place est loin d'être à sa portée à condition qu'il l'emporte sur Liverpool et que Porto ne l'emporte pas sur l'Atlético.
C'est aussi très ouvert dans le groupe G, où les quatre équipes peuvent toujours se qualifier. Wolfsburg joue Lille pendant que Salzbourg sera face au FC Séville. Amédine, pendant ce temps, on aura un duel à distance dans la poule E entre le FC Barcelone en déplacement à Munich et Benfica qui reçoit Dynamo Kiev.
Tout à fait, Élisée. Les données sont très claires. Les Espagnols du FC Barcelone doivent ramener un bon résultat d'Allemagne. Ils doivent même impérativement gagner ce match choc afin de conserver leur destin entre leurs mains. Car dans le même temps, les Portugais du Benfica de Lisbonne recevront le Dynamo de Kiev qui ne comptabilise qu'un petit point depuis le début de la compétition. D'ailleurs, le Dynamo de Kiev est éliminé depuis belle lurette. Mais ça, c'est Élisée que le FC Barcelone jouera sa qualification à huis clos à l'Allianz Arena car les autorités allemandes ont en effet annoncé vendredi que ce choc entre le Bayern et le FC Barcelone aura lieu sans public en raison de la nouvelle vague de Covid-19. Cette décision pourrait faire l'affaire de Xavi et de ses hommes Élysée.
Lawal, le dernier ticket sera livré dans le groupe F et ce sera pour le vainqueur du match. Atalanta de Bergame, Villarreal d'Espagne.
Oui, Élisée, tout reste à jouer dans ce groupe. Villarreal qui veut retrouver l'Europe après donc son sacre en Europa League. Atalanta Bergame qui veut rééditer l'exploit d'il y a deux saisons et qui veut également montrer qu'il est toujours dans la course. Donc ça va se jouer au mental et l'erreur n'est pas permise pour les deux clubs.
Voilà qui est clair. D'autres affiches de cette dernière journée Lawal vont aussi attirer notamment la première place du groupe D entre le Real Madrid et l'Inter de Milan. Et puis, on suivra également le Paris Saint-Germain avec son nouveau ballon d'or face au FC Bruges. Sur le continent à présent, la Coupe de la Confédération. Le tour de cadrage s'est terminé hier et parmi les qualifiés pour la phase de poule, on retrouve des habitués. Le Conto Sport de Garoua, demi-finaliste l'an dernier et qui a dominé 2-0 les Mauritaniens du FC Ouagadougou. Les Tanzaniens de Simba, éliminés de la Ligue des Champions, y seront aussi, tout comme les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan, double vainqueur des Angolais d'Interclubé. Ça passe aussi pour deux anciens vainqueurs de la compétition, le club sportif Sfaxien et la Renaissance de Berkane. Amine, les Marocains se qualifient au bout du suspense.
C'est une qualification au forceps pour la Renaissance sportive de Berkane qui a eu très très chaud face à la formation rwandaise de l'APR. Après le 0-0 qui avait des allures de résultats piégeux ou trompeurs à Kigali, les Marocains arrivaient dans ce match privés de nombreux cadres blessés ou suspendus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le scénario de la rencontre allait à l'encontre des prévisions de Florent Ibegui, puisque l'équipe de la RSB, même si elle a dominé territorialement, n'a pas pu concrétiser les quelques occasions qu'elle s'est créées en première mi-temps. Mieux encore, ce sont les Rwandais qui, à quelques secondes du coup de sifflet final de la première période, ont pu prendre le score en leur faveur. Obligés de ramer à contre-courant, les joueurs de Berkane s'en sont remis à des éléments d'expérience, tels les deux capitaines d'équipe, l'Arbin Neji qui a égalisé la 67e minute et surtout Mohamed Aziz qui a donné l'avantage et la qualification définitive aux siens à 15 minutes du coup de sifflet final. Berkane sera bel et bien dans la phase de poule, mais elle a eu très très chaud face à une équipe de l'APR et à un entraîneur, Adil Radi, qui est marocain de nationalité, qui n'ont pas du tout à rougir de cette élimination.
Qualification également des Sud-Africains d'Orlando Pirates, des Algériens de la JS Aoura qui ont renversé les Ghanéens d'Asofuk et les Congolais de l'AS Otoho Do Tombeur des Kenyans de Gor Mahia. En revanche, les deux clubs maliens engagés ont été éliminés. Amédine, immense déception pour le stade malien éliminé au tir au but par l'Ali Tripoli et Binga FC, club de deuxième division qui a frôlé l'espoir face aux Zambiens de Zanaco.
Tout à fait, Élysée, le stade malien qui avait remporté la première manche à l'extérieur en s'imposant sur le score 2-0 face aux Libyens d'El Ahly se sont inclinés à domicile sur le même score à égalité. Sur l'ensemble des deux matchs, il fallait passer à la série de tirs au but pour départager les deux formations. Et là, les Libyens ont été plus adroits en s'imposant par 4-2. L'aventure s'arrête aussi pour le petit poussé Binga FC qui évolue en deuxième division. Le club malien s'est pourtant imposé sur le score de 2-0, mais c'est insuffisant puisque les Maliens s'étaient lourdement inclinés lors de la première match sur le score de 3-0. Donc ce résultat est insatisfait. Donc la belle aventure du club malien s'arrête, mais il faut dire que le club malien est tombé les armes à la main, Élysée.
Bilan décevant aussi pour la RDC. Valdo, si le TP Mazembe s'est qualifié au détriment des Sud-Africains de Marumo Galant, ce n'est pas le cas de Manuma Union et du Daring Club Motiba Bembe, tous éliminés.
Dans la douleur, les Corbeaux ont préservé leur avantage d'un but du match aller avec ses nuls blancs et sauvé du coup l'honneur d'une nation, Élysée. La RDC est en perte de vitesse aux interclubs de la CAF. Donc, la République démocratique du Congo n'aura qu'un seul représentant en phase des groupes de la Coupe de la Confédération, puisque Maniema Union et Desampé n'ont pas obtenu leur ticket, déjà battu. Au match aller à Kinshasa, Maniema Union s'est de nouveau incliné face à Pyramide d'Égypte sur le même score du match aller, soit 1-0. Alors que les Desampé s'est démerdé comme un petit diable pour assurer sa survie. Le club de la RDC n'a pas réussi à remonter les deux buts du match aller. Sa victoire 1-0 sur le club de la gendarmerie d'Alger n'a pas été suffisant.
Rappelons que le match JS Kabylie Royal Léopard d'Eswatini et Al Ittihad de la Libye, Enima du Nigeria, ont été reportés à une date ultérieure en raison des problèmes de déplacement provoqués par le coronavirus. Et on enchaîne avec la Coupe arabe des nations à Doha au Qatar, une compétition organisée par la FIFA à un an de la Coupe du Monde que le pays organise. Et pour cette première édition, 6 pays africains y participent avec de fortunes diverses après la deuxième journée des matchs de poule. Amine Birouko, si le Maroc, l'Algérie et l'Égypte ont quasiment validé leur billet pour le second tour, ce n'est pas le cas de la Tunisie, de la Mauritanie et du Soudan.
Ce qui est certainisé, c'est que le Maroc a tenu son rang dans ce groupe avec 2 victoires à 4-0. C'est le tarif maison face à la Palestine et la Jordanie en montrant certaines qualités de jeu. Une équipe uniquement composée de joueurs de la Botola et d'éléments évoluant dans les pays du Golfe et en Afrique du Nord, en Égypte en particulier. Idem pour la sélection algérienne qui a réussi 2 belles victoires
que ce soit face à la sélection soudanaise 4-0, soit face au Liban, avec un peu plus de difficultés certainement, 2-0. L'Égypte a joué au chat et à la souris avec le Soudan, avec une victoire 5-0, après avoir peiné lors de son entrée en matière face au Liban. Et Égyptiens et Algériens vont devoir se battre pour la première place du groupe, histoire d'éviter le Maroc en quart de finale. Cette rencontre est prévue mardi. Revanche, au lot des déceptions, la Tunisie, qui après un départ tonitruant face à la Mauritanie, a calé et a surtout subi un véritable camouflet face à la sélection syrienne. Et puis, au rayon des très grosses déceptions, le Soudan, avec deux défaites, 4-5-0 face à l'Algérie et l'Égypte, et la Mauritanie, qui a un peu mieux résisté face aux Émirats Arabes Unis, après avoir subi un véritable camouflet face à la Tunisie. Ces deux sélections qui préparent la CAN ici au Qatar ont véritablement du pain sur la planche si elles ne veulent pas être ridicules au Cameroun.
Lawal, à voir la période dans laquelle se joue le tournoi, l'on pourra dire que ça sert de répétition pour le mondial, comme la Coupe des Confédérations entre-temps organisée par la FIFA.
Oui, Élysée, c'est la meilleure période décembre, quand on sait que le Qatar, pour la toute première fois, va être sous les projecteurs du monde du foot pendant le mondial. Il faut une répétition générale. C'est une façon pour la FIFA de voir les conditions dans lesquelles pourrait se jouer la Coupe du Monde. C'est déjà heureux que ça se passe comme ça. Et quand je prends la Coupe arabe des nations et que les nations africaines participent à cette compétition. Les plus grandes ont commencé par sortir les épingles du jeu, l'Égypte, le Maroc et puis l'Algérie, d'ailleurs tenante du titre sur le continent. Il est important de rappeler que celle qui surprend un peu, c'est la Tunisie, parce qu'on connaît les Tunisiens pour la qualité de leur jeu. Le Soudan et la Mauritanie, c'est peut-être les petits poussets de cette compétition. Mais il était important pour la FIFA de voir un peu comment pourrait se faire la Coupe du Monde. Et là, c'est une très belle opportunité pour les Qataris de montrer ce dont ils sont capables, de montrer tout l'investissement qu'ils ont eu à faire dans les stades avec les conditions climatique spécial qu'ils ont créé, des stades entièrement climatisés et tout le reste. Ce serait du beau. On espère donc que ce sera une réussite pour eux, le temps de permettre à la FIFA d'être sûre que la Coupe du Monde sera aussi belle.
Toujours, mais cette fois en coulisses. Et les Léopards du Congo pourront bien disputer en mars prochain les barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde. La FIFA a rejeté la plainte déposée par le Bénin après le match de la dernière journée de la phase de poule disputée à Kinshasa entre Congolais et Béninois. Battu 2-0, le Bénin a saisi la FIFA et dans sa réclamation dénonce les 4 changements effectués à 4 moments différents. Valdo, les Congolais peuvent souffler. Ils joueront bien les barrages.
Eh oui, Élysée, les barrages assurés pour les Léopards de la RDC. Les Congolais se sont finalement débarrassés de ces doutes qui commençaient à prendre corps après que le Bénin ait saisi la FIFA au sujet de ces temps de changement des trous. Les doutes avaient laissé place à la psychose qui, elle, a pris la place de la qualification au barrage après la demande par la FIFA des moyens de défense à la Fédération Congolaise de Football Association sur des faits qui semblaient pourtant être mineurs, nostalgiques aux autres conflits dont l'issue n'a pas été profitable à la République démocratique du Congo. Il y avait de quoi douter de l'issue de celle-ci. Le suspense a été bien entretenu, mais le plus important, c'est le fait que c'est cette qualification assurée au barrage qui permet à la République démocratique du Congo d'être parmi les 10 meilleures nations du continent africain, présente à cette ultime étape. Point n'est besoin de rappeler que la RDC court toujours derrière une qualification en Coupe du Monde depuis près de 50 ans.
À noter que la réponse de la commission de discipline de la FIFA, sans même évoquer le fond, a avancé que les Béninois n'ont pas déposé leur recours en temps et en heure. La FBF respecte donc cette décision et ne fera pas appel selon Innocent Atinéou, membre du comité exécutif. Alors Lawal, c'était perdu d'avance à voir la forme et le contenu de la réclamation.
Oui, Élysée, il faut dire que personnellement, je n'attendais pas plus que ce que la commission de la FIFA a dit. Il était important pour les Béninois de savoir agir quand il le faut. Ils avaient leur destin en main depuis Cotonou. Ils ont raté les deux moments forts où ils devraient.
Donc, non seulement battre les Congolais, mais aussi
battre la Tanzanie. Pour prendre le large, ils n'ont pas réussi. Et c'est déjà comme une répétition pour les Béninois. On se rappelle, en 2005, ils avaient été à la dernière journée battus par le Mali 5-2.
Alors qu'ils pouvaient perdre 2-0
et être qualifiés. Ouais. Pour la CAN qui s'annonce en janvier au Cameroun, ils ont laissé leur chance passer à domicile et ils sont allés se faire battre 1-0 par les Sierra Leone avec tout ce qui est comme scénario autour de ce match-là. C'était pas perdu d'avance, ils ont laissé passer leur chance. Une troisième fois, ils l'ont fait également pour les éliminatoires.
Sur le plan organisationnel, ça laisse à désirer.
Non, il y a que les Béninois n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. On se demande si ceux qui sont au niveau du comité exécutif sont des gens qui connaissent le football.
Ils ont deux secrétaires généraux.
Est-ce que c'est
il y a
gens...
le secrétaire général, Claude Paqui, et puis le secrétaire administratif, Zéphirin Deguinon.
Non, il suffit pas d'être administratif ou général. Il suffit de voir les choses et de savoir réagir promptement. Ils n'ont pas réagi promptement et en temps opportun, j'estime que ce bureau-là doit être carrément balayé parce que là, c'est tout un peuple qui comptait sur cette requête-là. Et qu'on fasse les requêtes pas dans les règles de l'art, alors que vous connaissez bien les tests, est-ce que c'est pas fait à dessein, est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire qui leur a été mise pour que ça se passe comme ça? Parce que ce jour-là, on a vu le secrétaire général de la CAF, de la Confédération africaine de football, présent sur le terrain. C'est ce qu'il n'a jamais fait. Est-ce que c'est pas tout ceci qui a joué en défaveur des Béninois? En tout cas, le mal est fait. Les Congolais sont qualifiés. Félicitations à eux. On espère qu'ils vont donc retrouver, après l'épopée 1974, la Coupe du Monde. On le leur souhaite bien parce que c'est quand même une équipe africaine qui se qualifie.
Merci, Lawal.
Élisée, c'est moi.
Terrain de foot à ceux du handball avec le mondial féminin qui se déroule actuellement en Espagne et grosse désillusion pour les quatre représentants africains. Amine, elles n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire après deux matchs.
Elles risquent d'attendre bien plus longtemps puisque, hormis peut-être l'Angola qui est capable de gagner un match, voire de bien se comporter dans la Coupe du Président, c'est la compétition qui est dévolue aux équipes qui seront éliminées avant le tour principal. Ça va être difficile de voir le Congo ou la Tunisie remporter une victoire. Ce qui est certain, c'est que le handball féminin en Afrique a beaucoup de retard et qu'il est nécessaire de trouver un système de formation, de pouvoir peut-être récupérer les meilleures joueuses d'origine africaine évoluant sur le continent européen pour venir renforcer ces équipes nationales. Parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre le continent européen, l'Amérique latine avec une excellente sélection du Brésil, une bonne partie de l'Asie qui commence à bien se comporter à l'exemple de l'équipe du Japon et notre continent qui vraiment la traîne.
Ahmedine, l'Angola qui domine le rang féminin en Afrique n'y arrive pas.
Tout à fait, Élisée. L'Afrique attend toujours sa première victoire dans ce mondial féminin. L'Angola qui domine le handball africain n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Les Angolaises ont été laminées par le Monténégro sur le score de 30-20. Défaite également du Cameroun face à la Serbie sur le score très sévère, 43-18. La Tunisie, l'autre représentant du continent africain, a aussi perdu face au Danemark sur le score de 34-16. Cela veut dire tout simplement, Élisée, que l'Afrique doit encore travailler encore plus, surtout au niveau du handball féminin, pour être à la hauteur de la crème du handball mondial, Élysée.
Valdo, c'est un retour au mondial difficile, voire compliqué pour les Congolaises de Brazzaville.
Élysée, c'est les mots qu'il faut. Les Congolais n'ont pas la tâche facile, ils le savent bien, puisque le haut niveau ne fait pas des cadeaux. Après deux journées, ils comptent deux défaites, battues 37-23 par la Corée du Sud et puis 33-18 par le Danemark. Un retour en Coupe du Monde de handball dames qui n'a que les allures d'un apprentissage à un niveau très l'un des cellules du continent africain. Mais il leur faut bien apprendre de cette difficulté pour ne pas baisser les bras à défaut d'une victoire. Ils montrent déjà de bonnes choses sur les plans offensifs avec un total de 41 buts marqués contre 60 sur l'ensemble des deux matchs. Donc les filles ne sont pas du tout ridicules, mais le continent attend mieux de ses représentants dans cette 15e édition du Mondial d'âme de handball.
On termine cette émission par le décès à Dakar de Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial. Il a tiré sa référence dans son pays natal, le Sénégal, à l'âge de 88 ans. Président de la Fédération internationale de l'athlétisme entre 1999 et 2015, il avait été mis en examen en novembre 2015 par la justice française pour corruption passive et blanchiment aggravé sur une affaire de dopage impliquant des athlètes russes reconnus coupables. Lamine Diack avait été condamné en septembre 2020 à 4 ans de prison dont 2 fermes. Amédine, ce qu'on peut retenir de l'ancien ministre sénégalais des sports, il a mondialisé le premier sport olympique.
Ça c'est d'abord, Élisée, que le décès de l'ancien patron de l'athlétisme mondial est une grosse perte pour le sport sénégalais, car Lamine Diack a été un dirigeant sportif au parcours exceptionnel. Il a été athlète, champion de saut en hauteur, il a été aussi footballeur, entraîneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, directeur technique, président du CONOS, ministre des sports, président de la Confédération africaine d'athlétisme avant d'être porté à la tête de l'athlétisme mondial en 1999 suite au décès de Nébio. Comme vous le savez, Lamine Diack a mondialisé le premier sport olympique, car avec lui, les recettes de télévision et de sponsoring se sont élevées en 15 ans à plus d'un milliard d'euros, Élisée. Comme vous le savez, Lamine Diack a aussi démocratisé le système de vote avec l'adoption d'un pays, une voix. Il a aussi permis à la Chine de réintégrer l'Association internationale d'athlétisme. Le président Lamine Diack a aussi permis aux athlètes de vivre de leur art, car jusqu'en 1997, l'I2AF se contentait d'offrir seulement une Mercedes au vainqueur d'une course, alors que les fédérations organisatrices empochaient 8 millions de dollars, Élisée. Et puis sachez également que c'est grâce à Lamine Diack que la Diamond League est courue désormais en Europe, Asie, Afrique, etc., alors que son ancêtre, la Golden League, était réservée uniquement aux 12 villes européennes. Pour vous dire simplement que Lamine Diack tenait à l'universalité de sa discipline, mais malheureusement sa riche carrière a été entachée par cette affaire de corruption dans le cadre des attributions des Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2020, mais aussi les Mondiaux d'athlétisme de Pékin. Mais Lamine Diack reste un grand sportif, Élisée.
Outre l'athlétisme, l'homme a aussi été un passionné de football. D'ailleurs, il a été président à 2 reprises de Jaraf Club basé à Dakar dans les années 70 et 2000. Amine, l'Afrique vient de perdre un grand dirigeant du sport.
C'est un sentiment contrasté par rapport au personnage ou à la personnalité de Lamine Diack, grand sportif tout d'abord, grand commis de l'État sénégalais, ensuite véritable précurseur de l'athlétisme dans son pays et sur le continent. Il a été pendant très longtemps président de la Confédération africaine d'athlétisme, avant de succéder à Feu Primoné Biolo en tant que président de l'IAF. Il avait réussi à développer la Diamond League et à donner une plus grande lisibilité à ce circuit mondial. En parallèle, il y a les affaires, entre guillemets, et notamment celles qui ont été révélées à partir de 2015, en occultant les cas de dopage des athlètes russes, la dernière affaire ou la dernière casserole qui est liée à la corruption pour le vote aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. On peut d'ores et déjà dire que Lamine Diack va laisser un sentiment contrasté, paix à son âme. On espère tout simplement, d'une façon ou d'une autre, les casseroles ou les affaires qu'il aura traînées auront été rapidement évacuées pour que l'athlétisme et le sport mondial puissent repartir sur des bases beaucoup plus saines. Personnage, personnalité, charisme, personnalité emblématique, mais certainement également à très gros contraste.
C'est fini aujourd'hui pour Sporama. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain.